J'aimerais aborder ce soir un petit peu cette question qui agite notre planète entière, qui l'agite dans tous les sens du terme d'ailleurs, dans les catastrophes qui que l'on voit un peu partout et puis dans les milieux politiques. On voit un Nicolas Hulot en France qui peut être à partir d'un acteur d'émission de télévision président de la République. Il arrive à faire signer par tous les candidats à la présidence de la République ou presque tous une charte écologique. Enfin, on arrive à des situations complètement déconcertantes. Il y a eu ce grand colloque de Paris qui a lieu il y a pas longtemps. Et Jacques Chirac qui solennellement annonce à la fin qu'il va falloir créer un organisme des Nations Unies pour l'environnement. Il en existe un déjà, un programme des Nations Unies pour l'environnement, mais un organisme utile de l'OMS. Jean-Paul devait demander ça déjà en 90, donc c'est pas nouveau, c'était pas un scoop, hein, voilà. Et donc on est devant ça, alors on est pris quand même dans différents courants. Il y a à la fois la réalité qui est là, le scandale de la destruction de la création, la tragédie qui se présente là, et puis on se rend bien compte qu'il y a différents courants dans les réactions qui sont suscitées par cette destruction de la création. Et on va aller voir un petit peu des courants auxquels on peut adhérer, d'autres auxquels on ne peut pas adhérer ou qui nous paraissent en tout cas très déconcertants dans leur philosophie et leur logique. Et puis, eh bien, la question qu'il faut se poser ultimement, quelle est la position d'un chrétien par rapport à ça? Alors, sur la prise de conscience, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On va voir aussi après, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à travers ça? Quel est le signal que Dieu nous donne à travers la crise écologique? Alors, pour ce qui est de la crise elle-même, les chrétiens ensemble s'étaient réunis à plusieurs reprises, déjà dans tout un processus qui avait abouti à un grand rassemblement à Bâle en 1989 sur la question de la justice, de la paix et de l'écologie, de la sauvegarde de la création, comme ça s'appelait à l'époque. Il y a eu ensuite un grand rassemblement en 1990 à Séoul, enfin tout un travail écuménique où les milieux issus de la réforme, les orthodoxes, les catholiques ont parlé ensemble, ont discuté ensemble, ont donné des paroles ensemble fortes sur ces questions-là, donc une prise de conscience qui était un grand éveil et qui n'a pas pris la traîne du mouvement, mais qui était vraiment initiateur d'une réflexion. Elle est restée assez inaperçue, hein, je dois dire. On a fait un petit peu d'écume dans le sérail catho-chrétien. Et puis à côté de ça, ça n'a pas été beaucoup plus loin, ça n'a pas été très entendu. Je dis que la proposition de Jean-Paul II de créer un organisme international pour réfléchir à ces questions-là n'a pas du tout été entendue. Et c'est maintenant qu'on dit, oh, vous vous rendez compte, Jacques Chirac, il a pensé à ça. Oh là là, c'est fantastique. Bon, voilà, les scoops sont des vieux trucs. Mais Jean-Paul II avait écrit un message très intéressant pour la Journée mondiale de la paix en 1990, donc du 1er janvier 1990. Et le titre, c'était « La paix avec Dieu créateur, la paix avec toute la création ». Et il relevait dedans, je vous cite quelques petits passages comme ça, on assiste maintenant à la formation d'une conscience écologique qu'il ne faut pas freiner mais favoriser, en sorte qu'elle se développe et mûrisse en trouvant des programmes et des initiatives concrètes d'expression qui convient. Et puis ensuite il dit, mais finalement pourquoi le chrétien s'intéresse-t-il à la création? Parce qu'il y a un Dieu créateur derrière. Et que finalement, quand on regarde un petit peu le fondement même de l'Écriture sainte, ça commence par la Genèse et ça commence à expliquer l'extraordinaire création par Dieu de l'univers. Une vision complètement nouvelle à l'époque. Vous savez que le récit de la création, on le date du 6e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où le peuple juif se trouve en exil à Babylone. Et il était confronté à des conceptions de la création relativement tragiques. Il y avait un dieu Marduk qui avait battu un autre dieu qui était le dragon primitif. Donc ça commence par la violence, vous voyez, dans la conception babylonienne de la création, qui s'appelait Tarmat ou quelque chose comme ça. Tarmat, je crois. Et puis il l'a coupé en deux. Il a réussi à le vaincre. Alors Marduk a fait avec une partie le ciel, avec l'autre partie du corps de ce dragon primitif, la terre, avec le sang, il a créé l'homme. Et tout le travail du roi de Babylone, qui est le représentant de Marduk sur la terre, consiste à éviter que ces deux parties se remettent ensemble pour pas que le dragon primitif retrouve sa force et détruise le dieu Marduk. Donc la conception babylonienne, et qu'on retrouve aussi dans d'autres régions de Mésopotamie, de la création était une conception de violence, de guerre, d'antinomie. Et on verra ça ensuite dans les conceptions dualistes. Il y a un dieu du bien, un dieu du mal qui se chamaille et qui se tape sur la figure. Et puis il y en a un qui gagne de temps en temps, puis l'autre qui perd. Et on inverse après au bout de quelques temps. Et donc on est toujours dans une situation de conflictualité. Et là au milieu, dans cette conception qui était généralisée à l'époque, parce que c'était un peu l'expérience qu'on vit. Hein, on vit bien, on voit qu'il y a du bien, on voit qu'il y a du mal, et on se dit, tiens, il doit y avoir deux principes, un principe du bien, un principe du mal. Ça, c'est l'expérience spontanée de l'homme, quand il constate un petit peu, qu'il ouvre les yeux, qu'il sort un petit peu de son petit nombril pour découvrir les choses.